Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Voilà, il est très exactement 9h40. Je suis heureuse de vous retrouver sur France Inter. L'instant M recommence.
Bonjour à tous et bon dimanche.
Ça reste la référence, mais je regarde jamais la télé.
4 secondes exactement, parce que nous sommes en...
Media One est parti de rien, si ce n'est de la volonté de bâtir un groupe audiovisuel à partir de... rien. 2015, trois hommes, Xavier Niel, patron de Free, Mathieu Pigas, banquier d'affaires, tous deux déjà copropriétaires du Monde. Le troisième est mon invité, producteur de télé qui s'est fait tout seul, déjouant pas mal de pronostics du PAF. Il s'appelle Pierre-Antoine Capton, c'est à vous, c'est lui, le retour du grand échiquier aussi. Le triumvirat s'introduit en bourse, donc, lève beaucoup d'argent et achète des chaînes de télévision et des maisons de production à tour de bras, réunissant à présent 750 personnes en France, une centaine en Italie, avec 22 labels, 17 chaînes thématiques pour 300 millions d'euros environ de chiffre d'affaires. Le tout dans un contexte où les plateformes vidéo américaines déferlent sur l'Europe avec leurs milliards d'investissements. Bref, l'heure est au combat de géants. Quelle place alors là-dedans pour la France, pour la loi, pour les chaînes de télévision et surtout pour les indépendants?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Donc, on vous a réuni ce soir pour vous annoncer...
On divorce.
Pardon ?
On divorce. Mais qui ça, on ? On, bah lui, enfin moi, elle, moi, nous, ton père, ta mère.
C'est une blague.
Laura Asmet, vous êtes pressentie pour jouer dans le prochain film de Solveig Ackerfeld.
Non. Mais t'es trop folle.
Écoute, elle arrive à Paris demain, elle vient exprès pour te voir, personne n'est au courant, donc c'est une putain d'exclu.
Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug.
Par ordre d'apparition, papa ou maman sorti au cinéma, 10% à la télévision, bien sûr, c'est une série et Miraculous, c'est du dessin animé. Bonjour Pierre-Antoine Capton.
Bonjour Seigneur.
Voilà, tout ça, ce sont des productions Media One, aujourd'hui leader de la production de fiction et des documentaires en France. Je précise que votre maison de production Troisième Œil, décidément, vous êtes toujours le troisième homme et le troisième œil. Qui produit, c'est à vous, rester indépendante.
Totalement indépendante, ouais.
Voilà. Et Media One se présente aussi comme une maison indépendante. Sauf qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup grossi.
Exactement.
La maison. Voilà. On va en reparler dans un instant. D'abord, votre avis de producteur sur la réforme de l'audiovisuel, qui fait l'actualité dans un contexte où, je l'ai dit, à la fois l'Europe et la loi française vont obliger ces fameuses plateformes américaines et leurs milliards en poche, car milliards, il y a les plateformes américaines qui visent des abonnés français à leur proposer des programmes français. Ça, pour vous, c'est tout bénef.
Pour nous, c'est une révolution. Il faut savoir que la loi audiovisuelle n'a pas changé depuis 1986 et qu'aujourd'hui, on doit rééquilibrer le secteur. Il y a beaucoup de monde qui est en souffrance aujourd'hui dans ce paysage audiovisuel et je pense que personne n'est capable de vous dire à quoi ressembleront les chaînes de télévision, les radios, les médias, les sociétés de production.
Dans combien de temps ?
Dans 3 ans, 4 ans. Personne n'est capable de vous le dire.
Dans 3 ans ?
Oui, on vit une véritable mutation aujourd'hui.
Oui, ça va très vite.
60 milliards d'euros seront investis par les plateformes cette année, en 2019, dans les contenus. Ça sera sans doute encore plus l'année prochaine. Comment nous, en France, on peut s'organiser face à des acteurs aussi forts, aussi puissants, et qui sont capables surtout d'exister avec notre système de défense de droits d'auteur, de producteurs indépendants, de scénaristes d'auteurs. Et on est en train de travailler aujourd'hui avec le gouvernement, avec les chaînes privées, avec tout le monde, pour faire en sorte que les GAFAN, donc Google, Amazon, Facebook, Netflix, puissent participer à la création de contenu en France.
Donc en gros, il y a une directive européenne qui va leur imposer un tiers des programmes.
Exactement, la directive
en français, voilà. Et puis la future loi qui va obliger ces plateformes à investir autant que les chaînes privées. Donc évidemment, pour vous, pour tout le secteur, c'est une aubaine. Encore faut-il que tout ça soit applicable. Le président du CSA en premier chef dit aujourd'hui ne pas avoir ni assez de moyens ni assez d'outils législatifs pour contraindre ces entreprises domiciliées à l'étranger à publier leur chiffre d'affaires et à être transparentes sur leurs investissements et leurs obligations.
Il y a deux cas différents. Il y a les pure players comme Netflix ou Disney qui, eux, fabriquent uniquement du contenu. Et il est assez facile de calculer le chiffre d'affaires de Netflix en France et de savoir combien ils pourront réinvestir dans la production. C'est plus compliqué pour des acteurs comme Amazon ou comme Apple, dont c'est pas le premier métier. Et je pense que le président du CSA, Roch-Olivier Maistre, pardon, est plutôt calé sur ce point. Je pense qu'on va trouver des solutions tous ensemble. Mais c'est déjà une vraie révolution de dire qu'on va être le seul pays au monde.
Donc vous êtes assez confiant.
En tout cas, je suis confiant parce que je discute avec Netflix, je discute avec Disney, je discute avec ces acteurs assez régulièrement. Ça devient des clients aujourd'hui pour MediaOne, 15% de nos chiffres d'affaires aujourd'hui est avec les plateformes. Donc on sait qu'ils vont participer, on discute dès maintenant des investissements qu'ils pourront faire dès 2020, dès 2021, en création originale. Et on doit là-dessus souligner les efforts du gouvernement qui ont été faits pour amener ces plateformes autour de la table. Moi j'ai la chance de travailler avec des producteurs italiens, des producteurs espagnols. Tout le monde regarde ce qui se passe en France en ce moment et ils ont tous envie de venir échanger avec nous pour pouvoir appliquer la même loi dans chacun de leurs pays. Alors après, cette loi, elle est large. On peut parler des services publics, du piratage.
On va en parler des services publics. C'est à vous est une émission, un magazine diffusé du lundi au vendredi, du lundi au samedi, puisqu'il y a une version le samedi sur France 5. Donc, c'est le service public.
Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver avec reconstitution de ligue momentanément dissoute. Le retour d'Antoine dans l'équipe du vendredi aux côtés de Marion et de Pierre.
Bonsoir, ma belle.
Bonsoir à tous les trois. À la une ce soir, des femmes ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme.
Les producteurs français sont content, comme vous, Pierre-Antoine Capeton, parce que grâce aux réformes en cours, les géants américains, donc des entreprises privées, vont vous apporter de l'argent frais. Mais quid des chaînes publiques? D'accord? Parce qu'il y a des investissements publics et il y a des investissements privés. Des chaînes publiques à qui le même gouvernement enlève de l'argent pendant que, au contraire, il favorise les investissements du privé. Alors, on ne touche pas, du côté des chaînes publiques. On ne touche pas aux investissements dans la série, dans le documentaire et dans le dessin animé, ce qu'on appelle la création audiovisuel. En revanche, on exige de lourdes économies de la part de France Télévisions. Donc ça tombe sur un métier qui est le vôtre, celui de ce qu'on appelle le flux, à savoir les magazines, les jeux télé, les débats télé, les talk shows. Vous avez chaque année moins d'argent, reconnaissez-le.
Ah oui, sur le flux, c'est un secteur sur lequel le chiffre d'affaires a baissé et donc il y a moins d'argent pour les producteurs. Peut-être qu'à une époque, il y a 10, 15, 20 ans, à l'époque des producteurs stars, il y avait trop d'argent dans le système. Et je peux vous dire que maintenant, les émissions comme C'est à vous, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Et les économies, elles sont plutôt faites sur les équipes, sur les moyens qu'on a aujourd'hui dans
les
contenus.
Donc aujourd'hui, vous dites on est à l'os.
Ah ben, de toute façon, tout le monde le sait, mais on est vraiment à l'os. Mm-hmm. Et de ma position de MediaOne, de pouvoir voir d'autres sociétés de production, les producteurs de flux aujourd'hui, alors peut-être à part quelques géants, travaillent pas pour gagner de l'argent. Elles travaillent pour informer, pour plein de raisons, mais pas pour gagner de l'argent.
C'est-à-dire que l'année dernière, quand Emmanuel Macron parle de honte de la République en parlant du service public, et qu'il pointe, mais vraiment, clairement, un petit nombre de producteurs en disant ces gens-là se goinfrent sur le dos de l'argent public et du contribuable, il trimballe un cliché d'il y a 15 ans ?
Ouais, je pense que c'est une mauvaise lecture de ce qu'est le métier de producteur aujourd'hui. Un producteur développe, un producteur investit pour la création, un producteur éditorialement fait en sorte aussi de pouvoir travailler de manière totalement indépendante. L'une des forces de France Inter, la force de France Culture, la force de France 5 aussi, ou de France Télévisions, c'est de pouvoir informer à un moment où il y a une sorte de méfiance, de défiance via des grands médias russes ou chinois. Et on fait en sorte aujourd'hui, à travers notre travail, de pouvoir travailler librement. Mm-hmm. Moi, à aucun moment, les équipes de Delphine Ernotte me demandent quelque chose sur ce qu'on peut produire au sein de C'est à vous. C'est très important que ce service public soit défendu et le flux accompagne les téléspectateurs tous les jours. C'est à vous, c'est une émission qui progresse en termes de téléspectateurs. On a encore fait 8% et 1 million.
Est-ce que le flux est voué à disparaître ? C'est vraiment une question qu'on se pose, c'est-à-dire que quand on voit arriver les plateformes, c'est-à-dire ces espèces de gros sites internet de vidéos à la demande qui au fond proposent plutôt ce qu'on appelle du stock, c'est-à-dire des programmes qui ne sont absolument pas périssables, dans lesquels on peut piocher comme ça à la demande pendant des semaines et des mois, voire parfois des années. Est-ce que le flux est amené à disparaître, Pierre-Antoine Capeton ?
Je ne pense pas. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez l'audience immédiate, j'en parlais avec Renaud Levent-Kim, qui est un producteur qui produisait Le Grand Journal pendant très longtemps, la semaine
donc, qui, comme vous, est venu de ce métier-là, du magazine, du direct,
et on
du
échangé
talk show.
Tous les deux sur la difficulté de réunir un grand nombre de téléspectateurs en prime time et à quel point maintenant il fallait amener plein d'invités, un grand plateau, plein de choses, parce que c'était de plus en plus compliqué d'amener le public devant les écrans de télévision à 20h30, à un moment où l'offre sur les plateformes est très importante. Moi, je pense que peut-être qu'à terme, le public devant la télévision vieillit, peut-être qu'il y aura moins de téléspectateurs, mais c'est très important aujourd'hui de pouvoir conserver pour le service public et pour les chaînes de télévision des marqueurs forts comme le son C'est dans l'air, C'est à vous, et comme ça l'est aussi en radio. Donc c'est très important de défendre le flux.
Je vous fais écouter un extrait d'Hélène et le garçon, vous et moi, nous avons le même âge et nous avons regardé ça à la télévision parce qu'à l'époque il n'y avait rien d'autre.
Bénédicte et moi, c'est fini.
Non, ne dis pas ça, José.
Parce que même si tu t'es excusé avec tout ce que tu lui as fait, fallait pas t'attendre à ce que se jette dans tes bras.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Oh, allez, José, ça va s'arranger, tu la connais ta Bénédicte, hein?
Ouais, tu veux que je te dise, Sébastien? Je m'en fiche de ma Bénédicte, c'est plus la mienne de toute façon. Puis on me traite pas comme une serpillière, moi.
C'est fou ce que ça jouait juste. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui un catalogue de vieilles séries? Quand vous avez commencé à investir dans Media One, vous avez racheté des diffuseurs, vous avez racheté petit à petit des maisons de production qui fabriquent de la nouveauté, mais vous avez acquis aussi beaucoup de catalogues. À une époque, tout ça valait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on est face à un tel investissement et à un tel arrivée de nouveautés qu'on se demande ce que les séries ringardes valent encore. Est-ce qu'elles valent quelque chose financièrement? Est-ce que le public en veut encore?
Alors ça fait partie, et ça va vous étonner, des programmes qui valent le plus d'argent aujourd'hui.
Pourquoi? Qui a envie de voir un vieux Navarro quand on voit la qualité et la quantité astronomique de nouveautés qu'on a aujourd'hui?
Alors d'abord, ça met du temps pour produire les nouvelles séries. Ouais. Ensuite, ce sont des Madeleine de Proust. Les séries qui ont été vendues le plus cher cette année sont Friends, Seinfeld. Donc c'est des séries vraiment très anciennes.
Oui.
Et pour avoir eu
Friends qui fait un carton énorme sur Netflix, aux États-Unis.
Parce qu'on permet à une nouvelle génération de redécouvrir ce que leurs parents ont adoré voir. Mmh. On a eu la chance, nous, de nous associer à un producteur, Jean-Pierre Ramsey, qui avait produit la série H. Mmh. Et c'est assez étonnant.
C'était les débuts hein, de Eric
Exactement.
Ramsey et Jamel.
Jamel sur Canal+, ouais. Le démarrage du sitcom du sitcom qualitatif en France.
Ouais.
Et vous pouvez pas imaginer le nombre de sollicitations qu'on a eues pour relancer la série H et les demandes pour pouvoir faire exister cette série. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des valeurs sûres. Elles permettent par ailleurs d'assurer un certain nombre d'épisodes, puisque Seinfeld, c'est 10 saisons de 24 épisodes, et les plateformes sont très en demande.
Bah, les plateformes, c'est aussi des puits sans fond.
Exactement.
C'est ça. Il faut du contenu. Il faut en fait de la chair à mettre dans les tuyaux.
Il faut du contenu pour mettre dans les tuyaux. Quand vous êtes Apple et que vous arrivez en France, que vous avez produit 4 séries inédites, il vous faut bien quand même du contenu complémentaire. Pareil pour Amazon, donc ils sont très heureux aujourd'hui, mais c'est vrai, de pouvoir aller chercher des séries historiques.
Alors je vous fais écouter Il Delitti del Ballo, mais c'est une production italienne, ça vient d'une maison de production qui s'appelle Palomar, que vous venez de racheter.
Quindi sarebbe un omicidio.
Sarebbe un omicidio perfetto.
Però intanto io devo star qui dentro.
No, adesso vi portiamo a Ibiza.
Ce ne faranno capo della polizia.
D'Italia?
Les maisons de production, celles qui fabriquent les programmes et qui les vendent ensuite aux chaînes de télévision, connaissent un mouvement de concentration sans précédent. Et vous êtes l'un des acteurs de cette concentration, Pierre-Antoine Capton, avec votre groupe Media One, des rachats tous azimuts, la constitution de géants. Pourquoi être gros aujourd'hui? Pourquoi être gros aussi vite et aussi nécessairement, aussi absolument?
Alors pour deux raisons. D'abord parce que les fictions dont vous parliez tout à l'heure, Premium, nécessitent beaucoup d'investissements financiers. C'est-à-dire qu'il faut que vous investissiez à titre de structure plusieurs dizaines de millions d'euros en développement.
Mmh.
Et cet argent-là, quand moi en tant que producteur indépendant, je n'y ai pas accès. Donc quand je suis au sein d'un groupe, mes producteurs aujourd'hui peuvent me dire « j'ai envie de faire telle série importante et je saurai trouver les fonds pour leur permettre ce développement ». La société italienne Palomar
ouais.
qui fait partie de Media One, a un projet de western formidable, mais qui coûte beaucoup d'argent. Je me suis associé avec Braun, un fonds d'investissement américain qui a produit le Joker aux États-Unis, pour qu'ensemble on puisse développer cette série. Mais donc aujourd'hui, en tant qu'indépendant, c'est très compliqué d'avoir accès à un niveau international. Donc on s'est positionné là-dessus. Et deuxièmement, je me souviens plus de la question, pardon Sonia.
Non, mais c'est pourquoi faut-il devenir gros? Et c'est extrêmement intéressant parce que vous n'êtes pas le seul acteur de la production
Banijay,
à racheter et à grossir. C'est-à-dire que là, on voit se constituer. Alors si vous êtes gros, là en face, vous avez carrément un colosse. C'est Banijay qui rachète Endemol Shine. C'est une opération à 2 milliards de dollars, même s'il y a beaucoup d'endettement. C'est la réunion entre les maisons de production qui font Koh-Lanta, Fort Boyard, toutes les émissions de Nagui, toutes les émissions de Cyril Hanouna, et puis de l'autre côté, l'inventeur de la télé-réalité dans le monde. Donc vraiment, c'est un monstre. Est-ce que face à ces géants de la production, les chaînes de télé ne sont pas restées des acteurs en fait locaux? Et donc des petits. Est-ce que le rapport de force n'est pas en train de s'inverser?
Alors, si on ne sait pas ce que sera le monde des contenus dans 3 ans ou dans 5 ans, il y a une chose dont on est sûr, c'est que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est le contenu. Donc, c'est ceux qui les fabriquent.
Ça.
et ceux qui les vendent. Donc le rapport de force aujourd'hui, on a
ce
besoin.
Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans.
Non, bien sûr.
Ce qui comptait il y a 20 ans, c'était d'avoir une chaîne de télé. C'était Bouygues qui était puissant parce qu'il avait TF1. Alors, aujourd'hui, il faut les contenus.
Ouais, ils restent très puissants, mais ils ont besoin de contenu. Ouais. Et ils sont déjà capables aujourd'hui d'être très agiles, de travailler comme sur le bazar de la charité avec Netflix et un producteur indépendant. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être gros. Pour terminer ma réponse de tout à l'heure, pourquoi c'est important d'être si gros aujourd'hui, c'est que Netflix, Amazon ou Apple, ils n'ont pas autant de conseillers de programme que peuvent avoir TF1 ou France Télévisions. Et ils ont besoin de faire confiance à des groupes et qui sont capables pour eux de faire tout un travail éditorial et de produire énormément. Quand vous avez Netflix qui va avoir besoin de produire, on parle de 150 à 200 millions d'euros en France l'année prochaine, ils ont besoin de s'appuyer sur des groupes forts qui vont être capables de, pour eux, faire un gros travail éditorial.
Ouais. Vous avez parlé des montants colossaux qui vont être investis par les plateformes dans le secteur audiovisuel. C'est une période bénie. On a quand même jamais vu ça, jamais vu autant de séries, autant de documentaires, autant de films, autant de téléfilms en production. Est-ce que ça va péter? Est-ce que c'est une bulle? Certains le prophétisent. Est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens en matière audiovisuelle?
Moi, je pense pas. Alors, on peut pas dire que sur les services publics, on vive au-dessus de nos moyens, ça c'est certain.
On peut vous le confirmer.
par ailleurs, aujourd'hui, cet argent vient beaucoup de l'étranger. Ce qu'il faut, c'est faire participer ce financement à notre système.
Ça, d'accord. Mais est-ce qu'on a atteint ce qu'on appelle le pic TV? C'est-à-dire le moment où le public n'en pourra plus, ne pourra plus absorber autant de nouveautés et où le marché non plus?
Moi, je pense pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que le volume horaire de consommation de contenu vidéo grâce aux téléphones ou à cause des téléphones portables, des tablettes et des écrans, ne fait qu'augmenter. Mmh. Donc, tant que la demande continuera, l'offre continuera de se constituer
bulle
aussi.
Bulle toujours. Est-ce que vous ne vivez pas tous au-dessus de vos moyens? On vient de parler de Stéphane Courby qui constitue ce colosse avec d'un côté Banijay, de l'autre côté Endemol Shine. 1,6 milliard de dettes sur une opération à 2 milliards. Vous, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une opération boursière. Vous levez des fonds en bourse, donc vous êtes vulnérable, vous êtes dépendant des aléas du marché. D'ailleurs, votre cours de bourse, il va pas bien du tout. Patrick Drahi, le milliardaire qui a racheté en 5 minutes Libération, L'Express, RMC, BFM TV, SFR, lui, pareil, c'est un autre système, mais il fonctionne sur de la dette. Est-ce que tout ce système ne fonctionne pas sur un système spéculatif qui risque un jour de s'écrouler?
Non, parce que alors MediaOne se porte bien. Cette année aura été très profitable.
Ouais.
On est l'une des valeurs médias qui se porte le mieux aujourd'hui en France et en Europe. Et par ailleurs, on gagne. On a très peu de dettes et on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui.
Pourquoi est-ce que
au
la bourse ne vous suit pas alors?
Parce que la bourse a du mal à comprendre et comme nous tous aujourd'hui se dit mais qu'est-ce qui se passe? On a du mal à comprendre aujourd'hui MediaOne.
Parce que c'est un secteur plein d'incertitudes.
C'est un secteur qui a du mal à... Même nous, on a du mal à le comprendre. Alors, imaginez quelqu'un qui investit en bourse, se dit, mais est-ce que c'est plutôt les chaînes de télévision, ou les plateformes, ou les groupes de production? Mm-hmm. Moi, ma réponse, c'est de se dire, MediaOne a un développement, une croissance organique à deux chiffres, a d'excellents résultats financiers, dans un secteur qui se porte bien. Donc, la bourse, pour moi, c'est un indicateur, mais c'est pas ce qu'on fait au quotidien. Ouais. Nos résultats financiers sont importants et on est persuadé qu'à un moment, ça va se remettre au bon niveau. On avait gagné 50% en 6 mois, on a baissé de 16%, c'est pas très grave.
Comment vont vos deux actionnaires, co-actionnaires et deux partenaires et associés, Xavier Niel et Mathieu Pigas? Je le dis en introduction, ils sont copropriétaires du journal Le Monde et du groupe de presse qui va autour. Ils se sont déchirés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mathieu Pigas, à court d'argent, a revendu sans prévenir personne la moitié de ses actifs à un milliardaire tchèque qui s'appelle Daniel Kretinsky. Est-ce que Mathieu Pigas vous a donné des gages de sa participation et de sa présence à MediaOne à l'avenir? Et quelles sont leurs relations à tous les deux?
Je fais pas de langue de bois et je vais vous répondre très sincèrement. À aucun moment il y a eu de conséquences sur MediaOne, donc on a toujours continué de se parler. Mm-hmm. On s'est vu la semaine dernière tous les trois. Et tout se passe
hyper
bien.
Vous faites le casque bleu?
Franchement, je peux vous dire que l'ambiance est très bonne, mais c'est pas moi de le dire, mais voilà. On a encore un conseil de surveillance demain et on sera tous ensemble. Et par ailleurs, le gros avantage d'avoir une société cotée comme MediaOne, c'est que si quelqu'un vendait une action, ça serait déclaré. Donc, je peux vous dire que, à aucun moment, il y a eu des mouvements d'un côté ou de l'autre. Ces problèmes ont concerné Le Monde. Je pense que Le Monde a continué de fonctionner extrêmement bien avec Louis Dreyfus qui a fait du super boulot et que de notre côté, sur MediaOne, ça n'a eu aucun impact, ni sur notre travail, ni sur ce qu'on pouvait faire.
Merci beaucoup, Pierre-Antoine Capton. Merci d'avoir été l'invité de l'Instant M.